bonjour à tous. Toujours très très heureux de vous retrouver avec un thème que vous m'avez donné, que je vais évidemment respecter, mais un thème qui me soit permis de le dire assez compliqué. L'Église, un peuple élu. Alors évidemment, il aurait fallu voir par qui, pourquoi. Je me suis dit qu'il y a des réponses qui sont déjà toutes faites. Vous savez par qui, vous savez pourquoi. Alors, j'ai essayé, et j'espère que cela vous ira, d'y voir un peu plus près, et surtout de comprendre, et de me mettre à la place d'un non-croyant. Quand on est croyant, on voit, on sait, on connaît, ou presque. Mais quand on n'est pas croyant et quand on ne connaît pas, j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans le monde chrétien. Alors, je voudrais qu'on y voit un peu plus clair, parce que, est-ce que ça veut dire que l'Église est un peuple élu, mais qu'est-ce que l'Église ? Nous savons qu'il y a l'Église visible, mais il y a aussi à l'intérieur l'Église invisible. L'Église invisible, c'est évidemment ceux qui sont sauvés. Car vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas parce qu'on fréquente une église qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé qu'on est sauvé. Il y a donc dans l'église des gens sauvés et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, il y a des choses qui se passent dans l'église qui ne sont pas toujours très claires pour les gens de l'extérieur. Alors, vous comprenez, je sais que d'autres toucheront évidemment ce problème parce que je ne suis pas le seul à le faire. Mais voyez le défi qui est relevé. Alors essayons d'y voir un peu plus clair. Il y a aujourd'hui entre 2 milliards et 2 milliards et demi de chrétiens dans le monde. Tous ne sont pas pratiquants, mais ça représente quand même environ un tiers de la population mondiale. Plus d'un milliard sont catholiques, 900 millions sont protestants, et puis il y a des orthodoxes, des orientaux, des anglicans, et bien d'autres. En France, il y aurait aujourd'hui à peu près 40 millions de chrétiens, plus ou moins pratiquants, avec, vous le savez je pense, une très très forte majorité de catholiques. Les protestants seraient aujourd'hui autour de 2 millions. 2 millions. Pour combien d'églises ? Pour combien d'unions d'églises ? Il y a, à ma connaissance, plus de 300 unions d'églises en France. Et elles sont toutes différentes. Certaines sont membres de la Fédération protestante de France. D'autres sont membres du Conseil national des églises évangéliques de France. Certaines sont membres des deux et d'autres dans aucun des deux. En janvier, il existe 2 semaines de prière pour l'unité des chrétiens. 2 semaines différentes à 1 semaine d'écart. Là encore, certaines églises en France y participent, d'autres n'y participent pas. Certaines participent aux deux, d'autres à aucune des deux. Franchement, est-ce que vous trouvez ça normal pour un peuple élu ? Tout le monde se dit chrétien. Disciples de Jésus-Christ. Mais chacun est fier et heureux de marcher de son côté, en évidemment en évitant les autres unions d'église ou ceux qui ne prient pas comme nous ou qui ne pensent pas comme nous. Quand, évidemment, et là c'est encore plus dangereux et malheureux, quand on ne se tire pas dans les pattes les unes des autres. Alors bien sûr, vous allez me dire que tout cela est bien compliqué, qu'il y a des histoires différentes, qu'il y a des traditions et des pratiques qui sont différentes. Et puis, vous me direz aussi, et vous aurez certainement raison, qu'il y a, dans certaines églises, une divergence théologique. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour balayer ces difficultés et dire que finalement, on est tous pareils et qu'on devrait tous se retrouver dans la même église parce que nous sommes un peuple élu par un seul Dieu. Mais tout cela est bien compliqué. Nous ne sommes plus au XVIe siècle. Vous savez aussi bien que moi qu'au XVIe siècle, il y avait un roi, il y avait une religion, donc il n'y avait pas de place pour une autre, et c'est ainsi que les protestants ont été persécutés. Ce serait irréaliste, pour ne pas dire naïf. Mais du coup, ma question pour un peuple élu est celle-ci: peut-on vraiment se satisfaire de cette dispersion? Peut-on vraiment se contenter de dire que finalement l'unité de l'Église, elle se trouve en Jésus-Christ, qu'elle est spirituelle, qu'elle ne dépend pas de nous? Peut-on parler de fraternité chrétienne en excluant tous ceux qui n'appartiennent pas à notre Église ou qui ne partagent pas nos convictions théologiques? Peut-on simplement dire: l'église que je fréquente est une église fidèle et l'unité passe par l'intégration à mon église. Vivre la fraternité, c'est aussi vivre l'unité. Oui, nous sommes un peuple élu. Mais qu'est-ce que nous entendons par là? Comment vivre cette unité et comment vivre en tant que peuple élu? Pour répondre à cette question, je vous propose de lire simplement un extrait, parce que malheureusement le temps m'a été imparti et je ne veux pas du tout déborder sur le temps qu'on m'a donné. Je vous propose de lire un extrait de la dernière prière de Jésus pour ses disciples. Cette prière se trouve dans l'évangile de Jean, au verset 17. Alors, vous le savez, cette prière, elle clôt, si je puis dire, elle clôt le discours d'adieu de Jésus à ses disciples. Et elle est intéressante parce qu'on y trouve les dernières instructions de Jésus. Nous y trouvons l'annonce de la promesse du Saint-Esprit, l'annonce de son retour, l'avertissement que ce ne sera pas tous les jours facile pour les chrétiens. Nous y trouvons aussi l'importance de nous aimer les uns les autres, donc d'être unis. Et dans sa prière, il s'en remet d'abord à son Père. Regardez avec moi le verset 5. « Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Ensuite, il prie pour ses disciples et il prie pour leur mission dans le monde. « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. C'est au verset 15. Et puis à la fin, c'est très intéressant, regardez le texte, Jésus élargit sa prière et il va au-delà de ses disciples. Au verset 20, « Je ne te prie pas seulement pour mes disciples. » On pourrait le traduire par « les élus ».« Je ne te prie pas seulement pour les élus. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Père, tu vis en moi, je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, ils seront un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. On comprend bien qui est concerné par cette prière. Ceux qui sont concernés par cette prière sont ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Verset 20. On peut difficilement faire plus large. Il s'agit de tous les croyants dans toutes les générations depuis le premier siècle. Bref, nous sommes concernés. Or, dans ces quatre versets, l'objet de la prière de Jésus est clair. Il le répète quatre fois. Et je crois que se trouve ici le cœur, pas le secret, mais le cœur de ce que nous touchons, l'élection. Nous sommes un peuple élu. Alors, parce que nous sommes un peuple élu, Jésus va répéter quatre fois que tous soient un. Verset 21. Alors, ils seront un. Verset 22. Ainsi, ils seront parfaitement un. Verset 23. Si on n'a pas compris cela, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Et s'il insiste autant, c'est que probablement Jésus devait se douter que cette unité n'irait pas de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne la présente pas comme une option facultative, mais il la présente comme un absolu. Que tous soient un. Et l'objectif est donc clair pour le peuple élu, pour l'Église, c'est d'être un. Jésus précise toutefois une condition qui va rendre possible cette unité. Elle se trouve, regardez avec moi, au verset 21. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous. De même ensuite, il précise, ils seront un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. L'unité de l'Église, le fait d'être un peuple qui soit élu par Dieu, l'élection se trouve donc en Christ. Nous sommes élus, nous sommes son peuple, à condition d'être en lui. Les hommes n'ont pas à la construire artificiellement, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire aussi que ne pas la vivre, c'est refuser ce que Dieu veut nous donner. D'autant que l'enjeu, il est de taille. Il est tellement de taille que Jésus va le souligner deux fois. Verset 21. Ainsi, le monde croira que tu m'as envoyé. Il croira que tu m'as envoyé à la condition que tous soient un, puisque nous sommes un peuple élu. Au verset 23, alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. L'enjeu ici, c'est le témoignage, la gloire de Dieu. L'unité de l'Église est un témoignage en faveur de l'unique Christ, qui nous unit, qui fait de nous un peuple élu, malgré notre diversité. La division est donc forcément un contre-témoignage. Vivre l'unité n'est pas une option facultative pour le chrétien. On ne peut pas, c'est ce que je crois, on ne peut pas être personnellement en communion avec le Christ sans rechercher la communion avec les autres chrétiens. Parce que eux aussi sont en communion avec le Christ. Eux aussi tiennent le même langage. Ils seront un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Bref, vous le voyez, ma relation aux autres chrétiens dit quelque chose de ma relation à Dieu. Ma relation aux autres chrétiens dit quelque chose de ma relation à Dieu. Du coup, qu'est-ce qu'être un peuple élu ? Qu'est-ce que la vie chrétienne ? Un peuple élu, c'est quelqu'un qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu. Quand il y a élection, il y a approfondissement. Je suis élu parce que je recherche l'approfondissement de ma connaissance de Dieu, avec évidemment toutes les conséquences que ça implique pour ma vie, toutes les conséquences que ça implique dans mon comportement, dans mes relations. Et justement, il me semble qu'une de ces conséquences devrait être le fait d'élargir, d'approfondir mes relations avec les autres chrétiens, ceux qui appartiennent à d'autres confessions que la mienne et qui sont aussi, à leur façon, dans une relation avec Dieu et qui sont eux aussi, malgré leur façon de prier, leur façon de croire, un peuple élu. Mais pour cela, il y a, je crois, deux qualités qui doivent se développer chez chacun d'entre nous et chez chacune d'entre nous. Il y a d'abord l'ouverture et il y a la curiosité. Pour être capable d'accueillir l'autre, je dois être capable d'ouverture. M'ouvrir sur ce que je ne connais pas encore. La curiosité pour aller chercher chez l'autre les richesses nouvelles qu'il a et que je n'ai pas. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin l'un de l'autre. J'ai besoin de toi parce que tu m'apportes quelque chose que je n'ai pas. Et tu as besoin de moi parce que je t'apporte quelque chose que tu n'as pas. Si je n'avais plus besoin de rien, je serais alors semblable à Dieu. Personne n'aurait rien à m'apporter. Mais j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous sommes élus et nous devons rechercher cette unité dans l'élection. L'ouverture, la curiosité pour aller chercher chez l'autre des richesses que je n'ai pas. L'ouverture et la curiosité permettent la véritable rencontre en surmontant mes a priori, en surmontant mes peurs. Il me semble d'ailleurs que l'ouverture et la curiosité sont aussi importantes dans ma relation avec Dieu. Seigneur, je t'aime, je te donne ma vie, donc je reste ouvert à ce que tu veux pour moi. C'est l'ouverture. Seigneur, j'aimerais tellement te connaître. Il faut de la curiosité pour chercher à connaître le Seigneur. Vous voyez que tout se tient, être curieux de Dieu, c'est encore le chercher. Une chrétienne m'a dit un jour dans un camp, pour moi c'est bon, j'ai pas besoin d'église, je l'ai trouvé, c'est bon, je vis avec. C'est quoi cette relation avec Dieu? Je dois le chercher encore et encore, tout au long de ma vie, je dois le chercher, avoir envie de toujours mieux le connaître. Le but, c'est de connaître Dieu, de savoir qui il est. Alors, je sais que je fais partie de l'élection, je sais que je suis membre de l'Église de Jésus-Christ, je sais que je suis dans ce peuple élu. Mais si nous avions le même élan dans nos relations avec les autres chrétiens, car c'est aussi terrible quand on pense tout comprendre et surtout tout connaître des autres. Ah, tu parles des chrétiens là-bas, là, dans l'église là-bas. Ah ouais, je les connais, j'ai pas besoin de les rencontrer. Un chrétien ou une chrétienne qui ne cultive pas cette ouverture, cette curiosité, je crois pouvoir dire très sincèrement que c'est un chrétien, que c'est une chrétienne qui s'enferme dans sa vision, qu'il a des autres, et pire, dans sa vision qu'il a de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de vous dire maintenant qu'il faut gommer toutes nos différences. Oui, il y a des différences. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut nier ces divergences qui existent. Ce n'est pas parce qu'on cherche à élargir ses relations qu'on perd tout esprit critique. Être ouvert et curieux, ça ne signifiera jamais être naïf. Au contraire, l'esprit critique est essentiel dans toute relation authentique, mais pas l'esprit de jugement. Celui qui est animé d'un esprit critique, il écoute, il interroge, il approfondit, il réfléchit et il se positionne. Vous saisissez ce que ça veut dire ? Ayez un esprit critique. Alors, pour avoir cet esprit critique, il faut écouter l'autre, il faut l'interroger, il faut approfondir, il faut réfléchir, il faut se positionner. Celui qui est animé d'un esprit de jugement, il fait le contraire. Il enferme, il critique, sans réfléchir. Et finalement, il refuse d'écouter. Dans le regard, frères et sœurs, que nous portons sur les autres, et en particulier le regard que nous portons sur les autres chrétiens, sur les autres chrétiennes, la question est celle-ci. Oui, nous sommes un peuple élu. Oui, Dieu nous aime. Oui, nous sommes élus. Mais maintenant que nous sommes élus, quel esprit nous anime ? J'ai entendu souvent dans mon ministère pastoral dire, vous savez, il me semble que si on va à la rencontre des chrétiens d'autres confessions, on risque de perdre notre identité, de mettre en péril nos convictions. Je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, je crois que le dialogue, la rencontre, c'est cela qui forge notre identité, qui renforce nos convictions, parce que je les enrichis dans la tradition des autres. Je discerne chez l'autre des convictions, des pratiques que certes, je ne partage pas, mais je les découvre. Et je sais pourquoi il le fait. Vous savez tous et toutes que je suis un vieux pasteur. Je le rappelle, sur ma 72e année, j'ai été pasteur pendant 48 ans et pendant 40 ans, j'ai eu le privilège de faire partie du département jeunesse à la Fédération protestante de France pendant 40 ans. Quand je suis arrivé, j'étais un jeune pasteur, pratiquement tout jeune, sorti de fac. J'étais heureux, j'avais ma maîtrise de théologie, je me sentais balèze et je me disais que l'église où j'étais, c'est-à-dire l'Union des églises évangéliques libres de France, c'était celle qui était la meilleure. Et je me disais, mais qu'est-ce que les autres vont m'apporter ? Alors je suis arrivé à la Fédération protestante parce qu'on m'a demandé d'être délégué de l'Union des églises évangéliques libres pour représenter la jeunesse des églises évangéliques libres. Et là, j'ai rencontré des pasteurs réformés, des méthodistes, des baptistes, des luthériens, bref, il y en avait plein. Et puis j'ai confronté ma foi. Ça a été compliqué, mais ça a été d'une richesse inouïe. Les rencontres que j'ai vécues m'ont fait grandir. Elles m'ont fait grandir. Pourquoi ? Parce qu'elle a affirmé mon discernement. J'étais éclairé par le Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que je ne me serais pas trompé ? Aide-moi par ton esprit. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas ? J'ai discuté avec un pasteur luthérien qui m'a dit, mais c'est important de baptiser un enfant, c'est le signe de la grâce. Alors évidemment, les cathos vont vous dire, si l'enfant n'est pas baptisé, il est perdu. Okay, s'il meurt, il est perdu, il va en enfer, il n'est pas baptisé. Pour les réformés, protestants, c'est pas ça. Hein. Il faut savoir, enrichissez-vous, apprenez à connaître. Un réformé va vous dire, c'est pas du tout ça. Pour nous, c'est important de baptiser un enfant parce que c'est le signe de la grâce de Dieu qui coule sur lui. C'est différent. Et j'ai dû confronter, j'ai dû discerner ce que je croyais. Et ces rencontres, je vous garantis que c'est vrai, elles m'ont fait grandir. Elles ont affirmé mon discernement. Et le Saint-Esprit m'a éclairé. Ce même discernement qui est essentiel dans notre vie chrétienne, pour nos choix de vie, pour nos orientations, pour nos cheminements avec Dieu. Alors, je vais conclure parce que le temps est pratiquement passé maintenant. Finalement, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir que nous sommes un peuple élu? Pourquoi c'est si important, si je fais partie du peuple élu, de rechercher cette unité? Alors je viens de le dire et je le répète parce que c'est important. Parce que je crois premièrement que cela me donne l'occasion de rencontrer chez l'autre le même Jésus-Christ qui vit en moi. Le même Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ n'est pas enfermé dans le cœur de l'église protestante chinoise. Il vit dans ton cœur, mais il vit aussi dans le mien. Et je suis désolé de te le dire, mais moi je fais partie de l'Union des églises évangéliques libres. C'est-à-dire pas la même union que toi. J'ai mon frère qui est pasteur, qui lui aussi est dans une autre église. Il est pasteur de l'église réformée. Et le Saint-Esprit vit en lui aussi. Finalement, ça me donne l'occasion de rencontrer l'autre et de voir que le Christ qui vit en moi, il vit aussi dans son cœur. Je ne parle pas ici d'institutions et d'églises d'un point de vue structurel. Je parle de chrétiens. Je parle d'hommes et de femmes qui font partie du peuple élu. C'est vrai qu'il y a des traditions. C'est vrai qu'il y a des façons de s'exprimer avec des fois différentes de la mienne. Et parfois, ça m'étonne. Je me dis, tiens, ils prient comme ça. Tiens, ils font comme ça. Et puis des fois, ça me dérange. J'ai eu l'occasion d'apporter une prédication devant plus d'une centaine de jeunes dans une convention de jeunesse. Et j'avoue que le groupe de louanges qui chantait m'a un peu dérangé. À un moment donné, je commence à saturer, je commence à en avoir vraiment marre. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils avaient entamé un chant où ils disaient « Je rends gloire à Dieu, et 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 je rends gloire à Dieu. » Au bout de 10 minutes, « Et je rends gloire à Dieu. » Alors à un moment donné, je me suis mis à compter. 1, 2... Je suis arrivé à 21 fois. Ça me dérange. Ça me dérange de toujours dire à Dieu et je rends gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu. J'ai d'autres choses à dire à Dieu. Mais on croit bon de répéter 50 fois les mêmes paroles. On se dit peut-être que Dieu est sourd, là, au moins il va entendre quelque chose. Mais il a compris Dieu, il l'a reçu. Oui, il y a des traditions qui me dérangent. Oui, assurément, je ne serai jamais membre de cette église. Mais ça ne veut pas dire que cette église ne fait pas partie du peuple élu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Ils expriment une foi qui est différente de la mienne. Oui, je suis en désaccord. Oui, ça me dérange. Oui, je trouve ça étrange. Mais l'enjeu qui est ici, c'est de comprendre que je fais partie du peuple élu et que dans ce peuple élu, il y a des gens qui sont différents de moi, qui ne pensent pas comme moi, qui ne pratiquent pas comme moi. Il s'agit non pas de me rapprocher de lui, mais de me rapprocher du Christ. De me rapprocher du Christ pour me rapprocher de lui. De se rapprocher de nos frères, de nos sœurs, pour se rapprocher du Christ. Alors je vais terminer en vous racontant une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais en fac de théologie. C'est qu'une histoire, comme toutes les histoires, parfois elle est bête. Alors, c'est l'histoire d'un bon chrétien qui meurt et qui monte au ciel. Alors là, il l'a accueilli par le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je vais un peu te montrer ce qui se passe. Alors il dit, ici, tu vois, derrière la porte, il y a des luthériens. Ah ouais, ici, derrière cette porte, il y a des réformés. Ok. Derrière cette porte, il y a des mennonites. Là, ici, tu trouveras des baptistes. Ici, tu trouveras des libristes. Ici, tu trouveras l'armée du salut. Ici, tu trouveras les pentecôtistes. Mais, surtout, tu ne fais pas de bruit parce qu'ils croient qu'ils sont tout seuls. Alors, c'est qu'une histoire, mais ne pensez pas être seul. Nous sommes un peuple en marche, un peuple élu, élu par Dieu pour vivre l'unité. Et je vous rappelle ce qui est essentiel. Le monde, dit Jésus, l'extérieur, croira en moi à partir du moment où nous serons unis. Nous prions. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce moment de méditation. Merci parce que tu nous as élus. Merci parce que nous sommes ton peuple. Merci pour nos frères et sœurs qui sont différents de nous, mais qui sont frères et sœurs. Aide-nous à les aimer, à les respecter. Nous t'en prions. pour la gloire de Jésus-Christ, pour son honneur. Amen.